sécurité. Nous avons commencé la dernière fois à voir la diversité des qualités. Donc, je ne reviens pas sur l'habitus. Qualité de la qualité. Ça qu'il faut comprendre. Alors, c'est très intéressant de voir que dans le domaine des qualités, il peut y avoir qualité de la qualité. Alors, à quoi ça correspond, ça? Ça fait comprendre tout de suite ce qu'il y a du plus et du moins. Je crois. Et ça fait comprendre que la qualité ne peut pas rester uniquement du côté de la détermination. Qu'elle a un ordre vers quelque chose qui nous dépasse. Et vous ne pourriez pas avoir la relation de la relation. Hein. On a dit que c'était impossible. On ne peut pas avoir la quantité de la quantité, comme nous le verrons. Mais on a la qualité de la qualité. Alors, comment la diaphora de la substance peut avoir qualité de la qualité? Ça prouve que la qualité peut impliquer à la fois quelque chose d'indivisible et en même temps qu'elle est en elle-même indivisible, je veux dire, mais que en même temps il peut y avoir en elle quelque chose qui est divisible. Vous voyez? C'est quand même intéressant parce que c'est peut-être par là que je vois que Hegel a saisi quelque chose de juste. Mais nous regardons justement la qualité de façon tout à fait différente qu'une perspective dialectique. Dans sa perspective, la qualité va impliquer la quantité, donc le divisible. Or, si c'est qualité de la qualité, ça prouve que la qualité implique une potentialité, donc du divisible. Vous voyez ? Pour essayer de comprendre ce que Hegel a saisi de juste, et ce que nous disons, nous aussi, mais différemment de lui. C'est toujours ça qui est intéressant. Vous opposer brutalement, c'est oublier que quelqu'un d'intelligent peut exprimer une vérité autrement que nous. Il y a toujours une certaine interprétation du réel dès qu'on le connaît. Alors, où on va rejoindre sa pensée? C'est justement en disant que la qualité, c'est premièrement habitus, et que l'habitus est qualité de la qualité. Si l'habitus est qualité de la qualité, ça prouve bien que dans la qualité, il y a quelque chose de divisible en puissance. Et parce qu'il y a les deux, il donne le troisième, la mesure. Nous ne donnons pas le troisième. Pourquoi? Oui, bien. Nous avions vu dans la position hegelienne, vous avez dit de faire grande attention à cette position hegelienne, parce qu'elle est très intéressante. Et c'est peut-être là où nous pouvons intellectuellement saisir le mieux ce qu'est la pensée hegelienne. Alors ça, c'est important. Ça part à partir de la qualité, la manière dont on peut saisir l'indivisible. Alors réfléchissez là-dessus. Donc, l'habitude. qualité de la qualité. Et à côté de l'habitus, nous avons les dispositions. Les dispositions qui se prennent du côté matériel, qui, elles, impliquent l'aspect, donc, quantitatif, si j'ose dire, de la qualité. Puisqu'elle se prend du côté de la matière. Ça, c'est l'expression de saint Thomas, la disposition ex parte matériae. Alors, on a habitus et disposition. C'est pas la même, hein. L'habitus implique quelque chose de déterminé. Alors, la fameuse expression de saint Thomas, prise à Aristote, l'habitus difficile et mobilis. L'habitus, une fois qu'il est acquis, on l'a. Il ne peut plus disparaître. La disposition, au contraire, elle peut varier. Elle implique du divisible, donc elle peut varier. L'habitus ne varie pas. Donc vous avez acquis la vertu, qui est un habitus. C'est quelque chose de stable. Tandis que le vice n'est qu'une disposition. Et pourquoi l'habitus est stable? C'est qu'il nous lie à un principe. Alors voyez, c'est ça que Hegel n'a pas saisi. Tandis que la disposition ne nous lie pas à un principe, nous lie au contraire au mouvement, au devenir, au sujet du devenir, qui est toujours quelque chose qui reste en puissance. Alors peut-être que par là, nous commençons à saisir ce qu'est la structure de la pensée dialectique et la structure de la pensée analogique. Puisque ce sont les deux grandes manières de connaître. Je crois qu'il n'y en a pas 36, il y en a deux. Et toutes les philosophies sont ou dialectiques ou analogiques dans leur pensée. Point de vue critique, ça. Alors on voit très bien comment la pensée analogique, c'est de saisir la qualité dans son ordre vers un principe. Vers sa source. Et au contraire, la pensée dialectique, c'est de saisir la qualité par rapport à son fondement. Alors nous avons là les deux grandes manières de connaître. L'une qui recherche le principe, la source de toute indivisibilité. C'est le principe, ce qui est premier, et donc ce qui est simple. L'apanage du premier, c'est la simplicité. Et au contraire, dans la pensée dialectique, l'aspect du fondement, et le fondement est toujours divisible. Mais, alors je crois que ça, c'est intéressant à saisir. Essayez de saisir, parce qu'une fois qu'on le saisit, on voit bien comment la pensée analogique est liée à la qualité dans ce cas-là de plus elle-même. Donc la pensée dialectique est liée à la qualité par rapport à son fondement. Et ceci s'exprime très simplement par le fait que nous disons deux types de qualité et les deux types de qualité, deux espèces de qualité. L'habitus exis et la disposition. Pour nous, c'est divers. Ces deux espèces de qualités irréductibles. Pourquoi? Parce que l'une est attachée à un principe, l'autre à la matière. Et toutes les deux qualifient. transposition qualifie la matière et l'habitus qualifie le principe. En tant que le principe peut être qualifié. Et par là, on voit le point de vue de l'indivisibilité de l'habitus. Et on voit aussi comment dans la disposition, il y a quelque chose d'indivisible, mais aussi quelque chose de divisible. Vous voyez ? Alors, la pensée analogique saisit la diversité sans vouloir la ramener à l'unité. Saisit la diversité et saisit au-delà de la diversité, non pas la synthèse, mais la raison commune. La ratio de la qualité. Vous savez, diversité des deux modalités qui sont diverses et la ratio commune. Tandis que la pensée dialectique en fait la synthèse, la mesure. La pensée analogique demeure dans la qualité et la pensée dialectique réduit la qualité à son fondement. Troisième type de qualité, la dynamis. Pouvoir. Le pouvoir qu'on a traduit en scolastique des facultés. Nos facultés. Je crois qu'il faut reprendre le terme grec dynamis. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? C'est une capacité. Opérer. Donc, les troisième type de qualité, c'est le pouvoir dans l'ordre de la vie. C'est dans l'ordre de la vie. C'est la frontière. Là, ici, c'est habitus, et là, c'est disposition. Ou bien c'est l'inverse, quoi. Je crois que la disposition est toujours beaucoup plus grosse. C'est l'ordre de la quantité. Alors, le pouvoir comme tel, cette capacité d'opérer, la capacité de voir, et dans l'ordre de la vie, c'est très simple. On a inféré des dynamis. Alors, comment la dynamis est-elle encore une qualité? Qu'est-ce qu'il y a de qualitatif dans la dynamis? C'est que la dynamis implique un ordre interne vers le point de vue de l'opération. L'opération est ce qu'il y a d'ultime dans la dynamis. Et la scolastique va appeler alors la dynamis acte premier, opération acte second. Je vous le cite simplement pour votre... Il faut pas le dire. Je crois que c'est des expressions qu'il faut plus dire. Acte premier, acte second. Oui. Parce que je crois qu'il vaut mieux prendre le point de vue du pouvoir, capacité d'opérer et l'opération. Parce que l'opération qualifie et le pouvoir qualifie. Alors vous retrouvez quelque chose d'analogue, comprenez bien, entre habitue ses dispositions. C'est ça qui est très curieux. Donc vous retrouvez à l'intérieur de ces troisièmes qualités les deux moments. Donc une possibilité de voir la qualité d'une manière dialectique. Puisque entre l'acte premier et l'acte second, il y a une tension. Il y a une tension possible. Et bien en même temps, au contraire, il y a un ordre que je peux voir. Mais la scolastique a vu acte premier, acte second. Or, Hegel est en face, il ne faut pas l'oublier, comme Kant, en face d'une métaphysique qui est vue d'un point de vue dialectique, d'un point de vue scolastique. Acte premier, acte second. Quatrième type de qualité, les qualités sensibles et les passions. Les qualités sensibles et les passions. Ce qui actue le pouvoir. Les qualités sensibles, c'est les sensibles propres. La lumière actue ma capacité de voir. Et actuant ma capacité de voir permet la vision. Donc, vous avez tous les sensibles propres. Les cinq sensibles propres de chaque sens, qui tous sont des qualités sensibles. Alors, vous voyez que là encore, ce caractère de qualité de ces sensibles propres, comme c'est différent du pouvoir, d'un côté c'est en puissance et de l'autre côté c'est l'acte. Habitus, disposition. Et puis vous avez les passions qui regardent le bien sensible, les passions qui regardent le mal sensible, les passions qui regardent le bien ardu, difficile. C'est curieux, voyez, le difficile intervient dans l'habitus. Difficile mobilis, ce qui ne se meut pas facilement, difficilement. Et ce qui se meut facilement, comment se fait-il que dans les qualités, on retrouve l'aspect, voyez, le bien ardu, difficile, le bien, tandis que c'est le bien facile, sensible, le bien immédiat, le concupiscible. Et ici, l'irascible. Et puis le mal ardu. Donc là encore, les passions regardent le point de vue du bien, mais les passions, à la différence des qualités sensibles, est-ce que le bien sensible est une qualité ? J'ai vu d'abord au point de vue de la connaissance, la lumière, mais le bien sensible est une certaine qualité. Alors, je peux prendre la passion ou comme l'acte. L'action, c'est une action, c'est une opération, la passion. C'est une opération vitale dont ce qui les détermine est une qualité sensible, le bien sensible. Le mal sensible, l'inverse. Le mal ardu, c'est le mal victorieux. Vous voyez ? Le bien difficile est le bien et le mal victorieux. Donc le mal ardu, c'est-à-dire celui qui est fort. Et le bien difficile implique aussi un bien fort, difficile à conquérir, difficile à fort de la force, conquérant victorieux. Vous avez donc, dans les passions, également, comme dans les sensations, on ne dit pas que les sensations sont des qualités, mais les sensations sont des qualités. Ça le qualifie. Retrouvez donc, là encore, le point de vue d'un degré dans la qualité. Et ces qualités sensibles, comme les passions, montrent quelque chose d'ultime et quelque chose qui tend vers l'ultime. Alors, les qualités sensibles, comme les passions, touchent un acte immédiat. J'ai une connaissance immédiate de mes passions. J'ai une connaissance immédiate de mes sensations. J'ai donc une connaissance immédiate des qualités sensibles. Et j'ai une connaissance immédiate du bien sensible. C'est ce caractère immédiat de la qualité qui se manifeste de façon tout à fait particulière dans ses qualités sensibles et dans ses passions. Enfin, cinquième type de qualité, la figura, qui est tout à fait autre chose. Forme expressive. C'est la qualité qui se prend dans le monde physique, la physionomie d'un être. C'est une qualité qui implique quelque chose de synthétique. Non pas par une fin, mais par le beau. C'est du côté de la qualité beauté, la figura. Celle qui se présente elle-même pour elle-même. Et il y a quelque chose de très particulier. Ça montre, je crois, alors c'est la physionomie, c'est la figure. Vous pouvez prendre le point de vue de la figure. Quand on parle d'une figure, c'est la physionomie de quelqu'un. Ce n'est pas du côté quantitatif, c'est du côté qualitatif. Et ça implique tous les éléments impliqués dans une physionomie. La physionomie d'un paysage. Un coucher de soleil. Même les nuages. Il y a une physionomie particulière, avec la couleur. Tout ça est impliqué. Oui. Chose de très particulier, la figura. Ce qui montre, là aussi, que dans le domaine de la qualité, il y a non seulement le plus et le moins, mais il y a dans le domaine de la qualité quelque chose qui peut être synthétique. Ça peut impliquer une synthèse. Et la figura exprime ça, c'est la synthèse qualitative, la figura. Dans le domaine de qualité sensible. Y a-t-il une figura dans le domaine des qualités spirituelles? Quand on appelle une spiritualité, c'est l'ensemble des moyens vers la fin. C'est pas l'habitus. C'est presque... Vous voyez, alors est-ce que la sagesse, puisque vous avez regardé la sagesse, implique quelque chose d'analogue à la figura dans le domaine spirituel. Parce qu'on aurait là les deux qualités extrêmes, celle dans le domaine quantitatif, la figura, celle dans le domaine spirituel, la sagesse. Je crois qu'on peut dire ça. Et ça c'est clair, parce que ça montre bien que la sagesse implique des quantités d'éléments. On ne naît pas sage, on le devient. Oui. Comme il y a la figura de l'enfant et la figura du vieillard. Il y a la figura d'un pays, d'un paysage tout à fait particulier. Le givre, la neige, et la figura d'un paysage raboté. Quand vous voyez un fleuve qui a croisé son sillon, c'est tout à fait autre chose. Mais il y a les deux aspects. Et tout ça fait partie de la qualité. Je crois que ce qu'il faut saisir, c'est l'extrême variété de la qualité. Disons qualité, toute cette diversité, il y a quelque chose de commun à travers ces cinq modalités de qualité. Il y a quelque chose de commun, mais maintenez très fort la diversité, et une diversité qui commence dans le domaine sensible, quantitatif, jusqu'au domaine le plus spirituel, la contemplation. Un domaine de manifestation extérieure, un domaine d'intériorité. La plus grande intériorité, la sagesse. Et c'est donc un au-delà de l'intériorité et de l'extériorité. Un au-delà du sensible et du spirituel. La qualité dépasse tout cela, puisqu'on la retrouve à travers le domaine du sensible et dans le domaine spirituel. Donc elle est au-delà. Elle a quelque chose qui dépasse ces divisions visibles, invisibles. C'est pour ça que c'est si difficile à préciser. Et que c'est si riche. Alors si vous essayez de saisir qu'est-ce qu'il y a de commun, le dikoinon, ce qu'il y a de commun à travers cette diversité, fait que tout cela est d'égalité. Tout ça est d'égalité. Il ne faut pas comment on pourrait le nommer autrement. Ça ennoblit. Ça enrichit. Ça donne un caractère original. Un caractère unique. La diaphora de la substance. L'originalité de la substance. Ce par quoi la substance est unique. C'est la qualité qui fait ça. Alors, la substance qui va jusqu'à la nature matière, et la substance, dans ce qu'elle a de plus spirituel, la sagesse. C'est très étonnant. C'est vraiment toujours la diaphora de la substance. Et quand Aristote parle de la diaphora de la substance, l'originalité de la substance, qui se manifeste dans la quantité, qui se manifeste dans l'esprit, qui se manifeste dans ma capacité d'opération, qui se manifeste dans l'opération. Et donc, je comprends très bien comment la qualité va impliquer un domaine étonnant. Puisque ça recouvre toutes ces parties différentes de la pensée. Et c'est le domaine de l'indivisible et en même temps de la diversité. sens comme un principe de montre que le domaine de l'indivisible, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Tandis que qualité a ceci tout à fait particulier, c'est qu'elle est à la fois indivisible et diverse. C'est pour ça qu'elle est si proche de ma connaissance. Montre, je crois, le caractère tout à fait propre de l'homme et de la connaissance humaine et de la volonté humaine, l'aspect affectif et l'aspect connaissance. Au-delà de la distinction être physique, être vivant, être spirituel, elle les unit tout en montrant leur diversité. C'est pour ça que le philosophe si facilement s'arrête à la qualité. Parce que ce domaine de la qualité qu'on trouve le plus le point de vue de la manifestation de l'être et l'intériorité de l'être. Alors, qu'est-ce qui caractérise le point de vue de la qualité? La propriété caractéristique de la qualité est la similitude. La similitude est l'unité dans la qualité, comme l'identité est l'unité dans la substance. On verra que l'un est propriété de ce qui est comme tel. Alors, la similitude, c'est l'un dans le domaine de la qualité. En elle-même, la qualité est source de perfection. Je dirais, elle est perfection plutôt que source de perfection. C'est vrai que la qualité en elle-même implique une indivisibilité, mais comme elle implique du plus et du moins, elle n'est pas l'unité. L'unité n'implique pas du plus et du moins. Mais la propriété de la qualité va être la similitude. Et la similitude n'implique pas l'unité absolue, mais implique dans l'une, dans la qualité, une relation de similitude. Le lien entre la qualité et la relation, c'est la similitude qui est la propriété propre de la qualité. Mais le plus et le moins est peut-être pour nous ce qui montre le mieux toute la richesse de la qualité. Et aussi comment elle peut fonder une pensée dialectique. Alors, y a-t-il des questions, puisque nous allons tout de suite passer maintenant dans un autre domaine, le domaine de la quantité. Vous voyez comme c'est difficile à unifier la qualité. On ne peut pas. Si je regarde l'homme qui implique esprit et qui implique matière, et que de fait, la qualité existe dans l'esprit, dans la matière. Elle se trouve partout. Dans le mouvement, dans l'être, dans la vie. n'entendait pas à cause de cette diversité qui montre tout de suite qu'elle n'est pas ultime. La substance est une et la qualité est diverse. Nous allons entrer maintenant dans le domaine de la quantité. Là, voyez tout de suite la très grande différence entre les deux. Et c'est d'autant plus important pour nous que certains philosophes, comme Hegel, montrent le passage de la qualité à la quantité et de la quantité à la qualité. Alors, la grosse question tout de suite qui se pose, est-ce que la quantité est irréductible par rapport à la qualité? Et très, très facilement, aujourd'hui, on passe de l'un à l'autre sans du tout voir qu'on passe de la qualité à la quantité. Alors, quand on fait ça, on est tout proche d'une dégradation de l'homme. L'homme garde sa dignité dans la mesure où il maintient la distinction entre qualité et quantité, et qu'il est capable d'opter pour la qualité plutôt que pour la quantité. Parce que quand il voit le dégradé de l'un par rapport à l'autre, il se laisse emporter, comme tout le monde, par la quantité. Alors, c'est très important, je crois, point de vue éducatif, saisir tout l'abîme qui existe entre qualité et quantité est quelque chose d'irréductible. Vous ne pourrez jamais saisir la qualité à partir de la quantité. Jamais. Tandis que vous saisirez la quantité à partir de la qualité. Mais le danger, c'est de rester dedans. Mais là, Hegel a raison. C'est qu'on passe de la qualité à la quantité. Et pour lui, on sort de la quantité en faisant la synthèse des deux, c'est-à-dire en ne retrouvant plus la qualité. La mesure n'est pas la qualité. La mesure est un certain principe. Et là, on voit comment la dialectique veut saisir un certain principe à partir de qualité et quantité. Alors, essayons de comprendre. Il y aurait tout un aspect, évidemment, ici aussi, je ne vais pas le faire avec vous. Tout un aspect de topic historique qui serait très intéressant à faire. Je me souviens, mais je crois que les deux thèses ont été perdues. Le Père Médieu et mon frère le Père Thomas avaient choisi l'un et l'autre comme thèse. L'un la qualité, l'autre la quantité. Pour essayer de saisir dans Saint Thomas les deux. Et c'est évident que c'est un aspect de comprendre Saint Thomas, de regarder la qualité et la quantité. Et c'est très manifeste. Et ceci s'enracine dans Aristote. Une manière d'aborder Aristote, de regarder comment il est le philosophe de la qualité et de la quantité. Il est le philosophe qui montre l'irréductibilité de la qualité et de la quantité. Est-ce que dans Platon, on trouve la même irréductibilité? C'est une manière aussi d'aborder Platon. Aristote est le premier philosophe à considérer la quantité pour elle-même, du point de vue logique et du point de vue philosophique. Du point de vue logique, on regardera l'extension de l'universel et la compréhension de l'universel. sel implique un aspect quantitatif et un aspect qualitatif. Et il fait la synthèse des deux. Comme universel. C'est aussi très curieux de voir ça. Donc au niveau de l'être de raison, il y a une synthèse des deux. Vous voyez, comme la dialectique a un fondement dans l'être de raison. La qualité, la synthèse de la qualité et de la quantité. L'universel ne fait pas la synthèse des deux. L'universel implique les deux. L'être de raison implique les deux. L'être de raison est à la fois quantitatif et qualitatif. L'être raison le plus proche de nous, c'est l'universel. Or, l'universel implique l'extension. L'universel implique la compréhension. Et la logique moderne, la logique dite mathématique, ce qui est très mauvais comme expression, la logistique, c'est très mauvais. Les mathématiciens ont horreur de ça. Parce qu'on ramène alors les mathématiques à la logique. Et les mathématiques ont une dignité que la logique n'a pas. La logique mathématique ne regarde que le point de vue de l'extension. L'aspect fonctionnel. Alors là, vous saisissez tout de suite la différence entre la logique d'Aristote et la logique mathématique. Une fois que vous avez saisi ça, il faut bien saisir ça. C'est le point de vue de l'extension qui l'emporte. Et l'aspect de la compréhension disparaît. On ne s'en occupe plus. On ne regarde que l'extension. Et ça, alors, ça fait le règne mathématique. Le règne, je veux dire, quantitatif. De la quantité. Donc, retenez bien, comme pour la qualité, Aristote est le premier à faire une philosophie de la quantité. Et tout ça, vous voyez, c'est dans les catégories. C'est le truc génial des catégories. D'avoir montré que le legein quantitatif de la quantité et le legein de la qualité n'est pas le même. Et par le fait même, le fondement n'est pas le même. Là, vous voyez bien combien les catégories sont une sorte de propédeutique philosophique. Ça nous introduit dans la philosophie. C'est pas du tout de grammaire. Pas du tout. C'est pas du tout de l'ordre de la philologie. C'est vrai. Si vous interprétez les catégories d'une manière philologique, vous ramenez la grammaire. Si vous les interprétez de façon philosophique, vous voyez que c'est un legein qui a un fondement réel. Et que ce fondement réel, oui, le philosophe doit pouvoir l'étudier. Donc il y a un fondement réel du legein quantitatif et du legein qualitatif. Or, ce qui est très curieux, quand je compare le legein qualitatif, il me conduit tout de suite vers la diversité. Quand je regarde le legein quantitatif, il me conduit vers l'uniformité. L'univoque. La qualité sera donc fondement de l'analogie et la quantité fondement de l'univocité. Je crois que c'est ça qu'Aristote a saisi. Alors il a saisi du côté logique et du côté philosophique. Comme toujours, Aristote reste jamais uniquement sur la logique. C'est sa force. La logique pour lui est relative à la philosophie. Donc je ne peux pas faire de la logique pour elle-même. C'est un art organon. C'est un art de la philosophie et de la pensée philosophique. Et Aristote essaiera de comprendre, du côté philosophie première, qu'est-ce que c'est que la quantité. Dans la philosophie première, la quantité est présentée comme une des acceptions de ce qui